Voilà, merci à tous d'être présents pour cette rencontre. Alors cette rencontre assez exceptionnelle dans le cadre des Utopiales, puisque j'ai l'honneur, le plaisir, l'avantage, bref, je suis content d'avoir à côté de moi Monsieur Pierre Christin. Pierre Christin, vous le connaissez sans doute parce que vous avez sans doute lu au moins une de ses bandes dessinées, que ce soit avec Annie Goldziger, avec Bilal, avec Julliard, avec Tardy, enfin avec beaucoup. Vous avez peut-être lu un de ses romans. Vous avez peut-être rencontré un jour Pierre Christin, et donc il nous fait l'honneur d'une rencontre pendant une heure dans laquelle on va explorer un petit peu différentes facettes, et à la fois son côté journaliste, son côté scénariste, son côté romancier, peut-être aussi les voyages et l'actualité. On va essayer de faire un tour comme ça, et puis on se laissera quand même du temps pour que vous puissiez interagir avec lui, discuter et poser des questions. Ma première question, peut-être, c'est, on va faire un grand flashback. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu du moment où vous êtes dit, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires?
Oui, c'est quelque chose qui est venu assez jeune, assez précocement, même si je ne savais pas du tout, en réalité, ce que j'allais raconter. C'est-à-dire que si on m'avait dit que j'écrirais de la science-fiction, si on m'avait dit que je deviendrais scénariste de bande dessinée, j'étais dans un grand état d'innocence, notamment par mon milieu d'origine où on lisait très peu. Et ça s'est fait notamment parce que je travaillais dans une petite librairie le samedi qui était à côté du petit magasin de coiffure de mon père et où ma récompense pour classer les livres qui étaient arrivés dans la semaine et notamment le début du livre de poche, c'était un livre par semaine. Alors, j'ai lu le livre de poche en commençant par le numéro 1 et j'ai continué sans aucun esprit de classification. Je trouvais tout bien et ça a été le moment, j'avais 12-13 ans, où, bon, confusément, j'ai commencé à dire, mais ça doit être merveilleux de pouvoir écrire. Je dirais même pas d'être écrivain, de pouvoir écrire. Après, j'ai fait des études de lycéen, etc. Et le deuxième facteur déclenchant, ça a été que beaucoup de mes amis étaient des dessinateurs. Et j'étais moi-même très passionné de dessin, mais pas très doué comme dessinateur. Et quand on avait 16-17 ans, on s'est retrouvés à Paris, moi au lycée, mes copains à l'école des arts appliqués, dont sont sortis beaucoup d'artistes de bande dessinée, qui étaient souvent très précoces, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'étais plutôt un traînard, et puis bon, la vie d'écrivain, c'est tardif. Alors qu'à 16-17 ans, on peut être un dessinateur presque achevé. Alors, il y avait un décalage dans ce qu'ils étaient déjà capables de dessiner, des gens comme Jean Giraud, Moebius, ou comme Jean-Claude Mézières, et ce qu'ils étaient capables de raconter. Et ils m'ont dit, bon, est-ce que, au fond, t'aimes bien écrire, tu pourrais pas nous aider? Et j'ai commencé à faire des petits textes pour eux, et puis des choses dont je savais même pas très bien que c'était des scénarios, mais pour les aider à construire leurs histoires. Et puis, ben, évidemment, je me suis aperçu que c'était très amusant. Et ça s'est emmanché comme ça, comme un amusement et comme la concrétisation d'un truc de gosse où tout d'un coup, ça prenait une forme pratique que j'aimais bien, qui m'attirait.
Vous vous souvenez quand ça a commencé à devenir sérieux, pour le coup, un véritable métier?
Ben, c'est jamais devenu tout à fait sérieux. Hein. C'est-à-dire que, comme écrivain, je serais passé un peu de la puérilité à la sénilité sans être tout à fait jamais adulte. Parce que, dans la bande dessinée, il y a un côté qui n'est pas vraiment adulte. Même dans la bande dessinée, qui ne s'adresse pas spécialement aux enfants. Il y a un côté ludique dans la manière de raconter les histoires, de créer la surprise, qui reste toujours de l'ordre de la jeunesse. En science-fiction, en fantastique, et j'en ai quand même fait pas mal, c'est pareil, on joue avec le réel. On s'amuse à poser des hypothèses, à se poser des questions pour voir comment on peut s'amuser à les répondre. Alors, je suis peu à peu venu à faire ça pas comme un métier, mais toujours comme un amusement, mais de façon de plus en plus sérieuse. Mais en même temps, je suis toujours un intellectuel français, très classique, Sorbonne, Sciences Po, thèse de doctorat, enfin tout le bastringue habituel. et où l'aspect sérieux, pour moi, ça a toujours été le métier d'intellectuel, d'universitaire, de journaliste. La littérature, c'est, ou le scénario, c'est un amusement. Voilà, c'est pour le plaisir. Et ça, ça n'a pas beaucoup bougé.
Alors, vous avez parlé du mot science-fiction. Comment vous avez commencé à écrire de la science-fiction et pourquoi avoir développé un petit peu cet aspect-là, cette ESF? Qu'est-ce qui vous attirait dedans?
Ben, d'abord, dans mon passage à la lecture de science-fiction, je pense qu'il y a une question, c'est pas la seule réponse que je vais fournir, mais il y a une question d'origine sociale, qui est que je me suis retrouvé, par exemple, à Sciences Po de Paris, qui était le temple de la bourgeoisie à l'époque. Ce qu'on lisait, c'était du Gallimard, du Grasset, du Seuil, etc. Et il y avait quelques moutons noirs, mal fagotés, mal embouchés, politiquement du mauvais côté, etc., etc., qui étaient, comme par hasard, des fanats de science-fiction, des fanats de fantastique, des fanats de polar, des fanats de jazz, des fanats de rock, parce qu'il y avait ça à la Sorbonne aussi, mais à Sciences Po, c'était des marginalités qui se voyaient beaucoup plus. Alors quand on est jeune, là j'avais entre-temps grandi en âge, j'avais 19-20 ans, il y avait le côté très agréable de faire de la provoque, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes goûts que tous ces mecs que j'aimais pas, c'est sûr, et qui s'apprêtaient à faire l'ENA, à devenir des diplomates, etc., et pour lesquels j'avais, dans beaucoup de cas, même une certaine aversion. Alors, aimer la SF, enfin, aimer, disons, tous les mauvais genres littéraires, c'était une espèce de petite révolte personnelle, mais à laquelle j'étais très attaché. Et puis, il faut dire que l'époque était en plein gaullisme, hein, c'était l'apex du gaullisme, on était dans les années 60, c'était d'une lourdeur extraordinaire, le moins qu'on puisse dire, l'imaginaire n'était pas au pouvoir. Hein. La télé, c'était affligeant, les seuls journaux ou revues amusantes, de distraction, de rêve, c'était Pilote, pour la BD, c'était Fiction, c'était Galaxy, c'était Harakiri, Première Manière, c'était la lecture de Boris Vian. Je vous rappelle qu'à l'époque, Boris Vian était encore interdit et qu'il fallait aller acheter du Boris Vian en cachette chez les bouquinistes des quais. Alors, il y avait un côté d'un monde plombé, sérieux, que je détestais. La télévision, c'était Malraux, les divagations sur le grand art, les pièces de théâtre, du théâtre grec classique. Enfin, tout ça, ça me tapait sur le système. Et les seules choses que je trouvais gaies, inattendues, originales, bizarres, c'était voilà, dans le domaine de la science-fiction, du fantastique, de l'humour, du polar, où là, je sentais qu'il y avait un ton nouveau qui était en train de se mettre en place. Voilà, première explication. Deuxième explication, quand j'ai été un tout petit peu plus âgé, vers 23-24 ans, bon, maintenant, c'est devenu banal, à l'époque, ça l'était moins, ça a été le grand voyage initiatique aux États-Unis, où je suis parti dans l'Ouest américain. Voilà, ce qui me plaisait, c'était les grands espaces. C'était pas du tout la vie intellectuelle, tout ça, les universités, je m'en foutais. J'étais là-bas comme professeur, mais c'est pas pour ça que je suis parti. Non, non, c'était pour la grande mythologie de la frontière. Et je suis arrivé au moment de la très grande science-fiction américaine. Et c'était Van Vogt, Asimov, Poul Anderson et bien d'autres que j'ai lus avec passion pendant toute la période où je me trouvais aux États-Unis dans les années 60. Ce qui fait que quand je suis revenu en France, bah, il y avait mon background à moi, cette espèce de rébellion face au genre canonique, et puis il y avait cette découverte magique de ce qui pouvait se faire, notamment en littérature de science-fiction ou de fantastique, etc., aux États-Unis. Les deux choses se sont un petit peu mélangées, et ça a donné, mais sans que j'en sois très conscient, mon passage à la création de science-fiction. C'est comme ça que ça s'est fait.
Alors parlons un petit peu de la série Valérian, parce que là on est en plein dans la thématique science-fiction. Peut-être avant de revenir sur les débuts de la série, dedans c'est toujours une science-fiction, mais des histoires très en prise avec le réel, avec l'époque, comme si finalement votre science-fiction disait toujours quelque chose sur notre société.
Ben, c'est sûr que je ne suis pas... D'ailleurs on va retrouver ça peut-être après dans la discussion. Je ne suis pas un pur écrivain de science-fiction. Et déjà, dans ce que j'ai raconté de mes jeunesses ou de mes errements de jeunesse, il y a un côté double personnalité. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, mais j'ai aussi un côté très pratico-pratique, très journaliste. J'aime l'enquête, j'aime l'investigation, j'aime me déplacer pour aller voir les choses, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté très réaliste dans ce qui m'intéresse moi et finalement dans ce que je ferai après, en bande dessinée, en romanesque, etc. C'est-à-dire, d'un côté, j'écris des choses où je crois qu'on peut dire il y a 100% d'imaginaire, et le prototype, c'est en quelque sorte Valérian. J'en écris d'autres où il y a 100% d'enquête, ce que j'ai pu écrire pour Bilal, dans Partie de chasse ou dans Les phalanges de l'ordre noir. Bon, c'est vraiment du politique. Et puis, il y a tout ce qui est une zone grise entre les deux, où, je l'espère, il y a de l'imaginaire. Valérian, ça vient de nos désirs d'enfance, à Jean-Claude Mézières et à moi-même, aussi parce qu'on s'est connus gamins, de nos rêves, de la lecture d'Edgar P. Jacobs, de Jules Verne, de Robida, de tout ça. Et puis, il y a tout un côté aussi très ancré dans la réalité des années 60, qui est de dénoncer un certain nombre de choses auxquelles tous les deux on croit. Voilà. Valérian, par ailleurs, c'est antimilitariste, c'est anti-autoritaire, c'est pro-féministe. Voilà, des choses qui... C'est bien avant que le mot écologie rentre en France, c'est pré ou pro-écologie. C'est-à-dire que voilà, c'est un mix d'aventures lointaines, de pure invention et de sujets très précis, très contemporains. Je crois que c'est ça qu'on a voulu faire, toujours pareil, plus ou moins consciemment. Hein, parce que après, c'est facile de dire c'est comme ça qu'on a fait, ouais, enfin bon, on était un peu dans le brouillard, mais c'est ça le point de départ.
Alors, arrêtons-nous un instant sur la série, justement, Valérian, pour rappeler peut-être les débuts. Vous connaissez Jean-Claude Mézières depuis votre enfance. Quand est-ce que vous avez commencé à élaborer le projet d'une série comme ça, un petit peu science-fiction ?
Bah oui, ça fait drôle, évidemment, de parler de ça, puisque ça fait 40 ans que Mézières et moi-même, on raconte des histoires de Valérian, qu'on en est, ça dépend comment on compte... 22e, 23e album, et que là aussi, si on nous avait dit au début, quand on a démarré en 67, qu'on ferait des dizaines d'albums, qu'on en parlerait 40 ans après, c'était vraiment deux gars qui avaient envie de raconter une BD, comme il n'y en avait pas. Parce que quand Valérian a démarré, il y avait, il faut bien le dire, pratiquement pas de BD de science-fiction en France. Il y avait eu quelques météorites très brillantes comme Barbarella, mais qui étaient, comme on dit dans le jargon horrible, des one-shots. Il y avait eu des antécédents qui étaient un peu plus âgés, comme les Pionniers de l'Espérance, etc. Mais il n'y avait pas de BD de science-fiction vivante dans les années 60. Et il y avait eu, je l'ai cité tout à l'heure, bien sûr, Edgar P. Jacobs, à sa façon, avec Blake et Mortimer. Mais voilà. Donc, on a été voir Goscinny, puisque on a proposé ça au journal Pilote, qui n'était pas spécialement branché science-fiction, qui n'était pas spécialement branché sur les thèmes de société que j'avais envie d'aborder, et qui n'était même pas tout à fait du même bord politique ou littéraire que les deux auteurs. Mais c'était un rédacteur en chef génial, c'est-à-dire qu'il était capable de prendre des choses qu'à vrai dire, lui-même n'aimait pas tellement. Alors on est arrivé avec une petite idée, voilà, c'était Valérian, c'était le premier, mais dans un état de naïveté totale. La preuve, on savait même pas que, par exemple, les albums, ça faisait 46 pages, ce qui fait qu'on a fait une histoire de 33 pages qu'il a fallu rafistoler après, quand il a dû être publié en album. On partait complètement le nez au vent. La première histoire était trop courte, et puis celle d'après, La cité des eaux mouvantes, on n'avait toujours rien compris, elle était trop longue. Donc la première, il a fallu rajouter, et la deuxième, il a fallu couper. Enfin, on était là-dedans, et donc on a fait Les mauvais rêves. Alors en plus, pas très courageux, parce que c'est une histoire de science-fiction, mais comme on entrait vraiment dans un terrain vierge, au point de vue visuel, on avait la littérature, qui était déjà quelque chose de très élaboré. Mais je vous le rappelle, côté cinéma de science-fiction, dans les années 60, c'était encore très rudimentaire. Illustration de science-fiction, il y avait des très belles choses. Mais enfin, on était loin de toute la production qu'on voit partout ici. Donc, se lancer visuellement, c'était un peu délicat. Donc, on a commencé dans le futur, avec la capitale du futur, Galaxy City, et puis, hop, on a fait une manipulation spatio-temporelle, et la moitié de l'histoire se passe dans le Moyen-Âge, en l'an 1000. Bon, alors, ça nous amusait d'avoir un choc d'époque, mais c'est aussi, il faut bien le dire, parce qu'on avait un peu la trouille de faire de la science-fiction pure. Donc là, sur les destriers, les châteaux forts, là, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir dessiner ça. Et puis, il s'est passé quelque chose qui nous a étonnés, qui a étonné d'ailleurs tout le monde. C'est l'époque où les journaux de bande dessinée recevaient encore énormément de courriers. Et il y a eu tout un courrier disant voilà, c'est la BD de science-fiction qu'on attendait. Il y avait enfin une représentation de monde imaginaire, beaucoup de paradoxes avec le jeu des voyages dans le temps qui était presque plus utilisé. Et il faut le dire aussi, ce qui était une nouveauté, la création d'un personnage féminin qui était très absent de la science-fiction écrite et encore plus absent de la bande dessinée de l'époque et qui était l'Orline. Donc tout ça a fait que Goscinny, d'ailleurs, en a pris acte en disant « Ah mais ça marche très bien, donc si vous avez envie de continuer, eh ben, vous continuez. » Alors évidemment, on avait très très envie, et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Alors, 40 ans de Valérian, quelles ont été un peu les grandes étapes pour vous, ou tout au moins les tournants pour vous dans la série ?
Ben, y a le début où Mézières et moi-même, dans un genre qui donc est très peu représenté en France et qui n'a rien à voir avec les comics américains. Parce que autant il y a une influence américaine dans le domaine littéraire, autant les super-héros, tout ça, avec une exception pour Batman, Mézières et moi, c'est pas notre truc, ni du point de vue graphisme, ni du point de vue de l'idéologie. Je dirais même que Valérian a été, d'autant plus qu'on rentrait des États-Unis, un peu délibérément fait contre la BD américaine de science-fiction, que par exemple j'ai toujours trouvé, surtout à l'époque, extraordinairement xénophobe, voire raciste. Donc déjà, Valérian, il y a un présupposé politique qui est que les extraterrestres, toutes les bestioles, toutes les races, ce merveilleux bestiaire qu'a inventé Jean-Claude Mézières, il n'y a pas de méchant. D'ailleurs, on a eu un problème quand il a été question de faire un dessin animé tiré de Valérian. Les gars de Disney Channel et d'ailleurs sont venus en disant « Qui sont les méchants ?» Ah, réponse, ben justement, dans Valérian, il n'y a pas de méchants. Dans Valérian, les extraterrestres les plus répugnants, les bestioles les plus étranges ont toutes leurs raisons d'être. Ça ne veut pas dire qu'on est angélique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Mais les terriens sont pas traités comme ils le sont dans beaucoup de bandes dessinées où ils l'étaient, où en gros la réponse à l'extraterrestre, c'est comme pour les Indiens, le bon Indien c'est un Indien mort, le bon extraterrestre c'est un extraterrestre mort. Non, dans Valérian d'ailleurs, il n'y a pratiquement pas mort d'homme. Alors, il y avait le désir d'inventer une histoire imaginaire, mais il y avait le désir aussi d'avoir une espèce de message, je ne dirais pas politique, mais moral, qui soit très marqué dans notre bande dessinée, qui venait de notre amitié en plus à tous les deux, de notre vie de jeunes gens aussi, hein, sur fond de guerre d'Algérie, de décolonisation, enfin tout ça. On a quand même été modelé par cette période-là. Deuxième grande idée à l'origine de Valérian, on l'a quand même tout de suite vu, enfin plutôt moi, il faut bien qu'un scénariste ça soit payé à quelque chose, donc je suis toujours en avance sur le dessinateur. Je l'ai tout de suite vu comme quelque chose qui pouvait se projeter très loin dans le futur, puisqu'on jouait sur le paradoxe spatio-temporel, on n'avait pas de limite. Et donc, à l'arrivée, ça donne quoi ? Une BD qui a parlé de pas mal de problèmes, alors je dirais dans les années 70, parce que l'époque était très politique, de problèmes politiques. Dans les années 80, beaucoup de problèmes qu'on qualifierait maintenant d'écologiques, etc. Dans les années 90, mais ça je le raconte a posteriori, parce que quand je l'ai fait, j'en étais pas forcément très conscient. dans les cercles du pouvoir, etc., du pouvoir, et notamment du pouvoir du big business, et plus récemment, dans les derniers albums, puisqu'on est en train d'écrire le dernier des derniers des Valérian, des risques nouveaux, que quand on a commencé, on ne pensait pas à ça, de destruction de notre propre planète, de fin de la Terre, qui est un vieux thème de science-fiction, mais qui a pris une espèce de présence lancinante au fur et à mesure qu'on avançait dans Valérian. Alors voilà, il y a des grandes phases dans Valérian, plus ou moins voulues, plus ou moins conscientes, et cette idée qu'on peut aller très loin pour expliciter ces phases, pour regarder qu'est-ce que ça peut donner dans 10 siècles, dans 20 siècles, dans 30 siècles. Ce qui fait qu'à l'arrivée, voilà où on en est, ça nous a pris 40 ans pour faire ça. Il y a une vingtaine d'albums. Mais dans la vie de Valérian et Laureline, qui pratiquent le saut spatio-temporel et qui sont sans arrêt dans le présent, dans le futur, dans le passé, si on regarde combien de temps ont duré toutes leurs missions, qui sont parfois de quelques jours dans un album, maximum de quelques semaines, je me suis amusé à faire le compte en additionnant tous les albums. Pour eux, à tout casser, ils ont vécu 4 ans. C'est toujours des jeunes gens. Voilà, ce qui est bête, parce que Mézières et moi, on a vieilli. Mais bien sûr, nos héros, ça c'est normal, restent très pimpants. Là voilà, Valérian, c'est un mix un petit peu de tout ça.
Un dernier mot peut-être sur la série pour évoquer les deux projets. Alors il y a un roman, pour le coup, qui vient d'être édité aux éditions Mango. Et puis il y a le dernier tome de la BD qui arrive. Peut-être la première question sur le dernier tome, quelle est un petit peu l'histoire, dites-nous. Et puis après, on reviendra juste sur le roman.
Oh, le dernier tome de Valérian, que Jean-Claude Mézières souffre beaucoup à dessiner, puisque on convoque les fameux 40 siècles de Valérian et tout ce qui s'est passé, et toute une gamme à la fois de terriens, d'extraterrestres, d'animaux, de machines, etc. Et que c'est très particulier de terminer Valérian, mais on peut trouver ça dans d'autres très beaux ouvrages de science-fiction. Enfin, Valérian, c'est quand même très particulier dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de présent, pas de futur et pas de passé. Il y a tout à la fois. Donc, arriver à boucler la boucle pose un problème intellectuel qui est assez fascinant, en tout cas, qui, moi, m'a beaucoup plu. J'y pensais depuis des années et des années. Avec le fait que pour la première fois, j'ai relu tout ce que j'avais fait. Moi, j'ai aucun intérêt pour ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est fait. Bon, voilà. Je balance tous mes manuscrits. Je suis projeté dans l'avenir, pour le coup, mais pas du tout dans le passé. Et là, j'ai relu en me disant, ce monde quand même très complexe qu'on a mis en place au fil des années, et il faut bien le dire aussi, dans beaucoup de cas, au fil de l'eau, hein, au pifomètre, des trucs qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie de raconter, qu'on avait envie de dessiner. Ben finalement, c'est un univers très cohérent. Et donc, on peut boucler la boucle. Mais je ne vous dirai pas comment, parce que c'est ça la surprise. En même temps, ça crée, quand on a vécu avec des héros, comme Valérian et Laureline, quand même un sentiment de perte, hein, de penser que je ne vais plus les faire parler. Parce que pour Mézières et moi-même, comme pour beaucoup d'écrivains, je crois, il y a des tas de trucs, quand on parle des années passées, on ne sait plus très bien si c'est l'année où on était aux États-Unis ou si c'est l'année où je suis parti en URSS, mais on dit « Ah, c'est l'année des armes vivantes ». Voilà. C'est-à-dire, nos années sont quand même scandées par les albums qu'on était en train de faire. Donc, il y a une espèce de nostalgie à l'idée de plus vivre avec ces personnages. C'est pour ça que quand on m'a proposé de donner une deuxième vie à Valérian sous forme romanesque, et non plus sous forme de bande dessinée. Je suis arrivé avec l'idée de dire non, parce que, bon, voilà, quoi, c'était fait, on n'en parlait plus. Et puis tout de suite, bien sûr, j'ai vu ce que ça pouvait avoir de très amusant de passer de la BD au roman, parce que ce n'est pas du tout les mêmes techniques d'écriture, et j'ai dit oui, et ça donne un petit roman qui est sorti il y a, quoi, une dizaine de jours, et qui s'appelle Linini l'a disparu. Et c'était très amusant à faire.
Alors, parlons, ça c'était pour la période Valérian. Il y a eu d'autres grandes collaborations un petit peu en bande dessinée. On a évoqué en deux mots peut-être Annie Göttinger avec les portraits souvenirs. Je crois que c'est quelque chose auquel vous tenez. Est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement quelle était l'idée de base de cette collaboration?
Ben d'abord, il y a quelque chose que je reprends de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est que j'adore la science-fiction, mais c'est un projet de vie, c'est un projet personnel. Je ne voulais pas être uniquement un écrivain de science-fiction. Ça m'a plu, ça me plaît toujours, mais en quelque sorte, Valérian a suffi à m'exprimer, à me donner beaucoup d'expressions en science-fiction, même si j'ai écrit des nouvelles, mais tout ça, c'était il y a longtemps. Donc j'avais envie de faire quelque chose de, justement, totalement différent. Alors, première différence, la science-fiction, c'est quand même un truc de garçon, fondamentalement. Ou c'était, ça l'est de moins en moins, Dieu merci. Mais c'était de travailler avec une fille. Et la BD, c'est aussi, c'était, et ça l'est de moins en moins, Dieu merci, quelque chose de petit garçon. La BD, c'est des grands garçons qui font des albums pour des petits garçons, des jeunes garçons, des vieux garçons, des garçons qui ne veulent pas vieillir, tout ce que vous voulez. Donc, Annie Göttinger, avec Claire Bretécher, a été une des toutes premières femmes à rentrer dans le monde de la bande dessinée. Et honnêtement, c'est le plus grand travail de séducteur que j'ai jamais fait, en me disant, il n'y a qu'une femme en BD, je la veux, je veux travailler pour la bonne cause, hein, séducteur. Pensez donc. Mais j'aurais vraiment très envie de travailler avec elle pour faire, alors très précisément, le contraire de ce qu'il y a dans Valérian. C'est-à-dire des histoires intimistes, des histoires contemporaines, des histoires avec très peu de rebondissements, des histoires, parce que Annie Göttinger, comme beaucoup de femmes, a horreur de dessiner des voitures, des avions, ne parlons pas des fusées, etc., etc. Donc, maximum, je lui donne un cheval ou une vieille traction avant, de temps en temps, ça peut aller, mais bon, il ne faut pas abuser des machines. Donc, des histoires, je dirais aussi, délibérément plus statiques et beaucoup plus psychologiques, se situant du côté de l'intériorité, qui n'est pas tout à fait le côté de la bande dessinée. Alors ça, c'était une chance inouïe de pouvoir travailler avec quelqu'un dont, par ailleurs, le style graphique, très doux, je dirais très post-art nouveau, post-art déco, se situe aux antipodes du style de quelqu'un comme Jean-Claude Mézières, qui est un style post-Linclair, post-Franquin, qui est un style très, très musclé, très, très masculin, même, par certains côtés. Alors ça, c'était pareil, j'ai commencé avec elle en faisant un album qui s'appelait La Demoiselle de la Légion d'honneur, comme ça, pour le fun, pour le plaisir, et en pensant que je ne ferai jamais d'autre. Voilà, elle avait dit oui à mes avances, mais bon, on n'était pas parti pour se marier. 30 ans après, là, ça n'a pas fait 40, mais ça fait 30. On est toujours en train d'écrire ensemble. Alors que les couples hommes-femmes en bande dessinée, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Aux États-Unis non plus. Parce que, bon, c'est nos deux moitiés qui, je crois, se répondent assez bien, on s'entend à mi-mot, on a toujours envie de raconter à peu près la même chose au même moment. Donc maintenant, on écrit une série qui s'appelle Agence Hardy, et qui est une série qui se passe dans les années 50, c'est-à-dire dans le Paris de notre jeunesse, qui est un Paris en train de disparaître. Alors là aussi, il y a de la nostalgie, puisque beaucoup de choses qu'on dessine dans Agence Hardy, c'est affreux. Un an après avoir été dessiné, poum, la rue qu'on a choisie a été tellement modifié qu'on la reconnaît même plus. Mais enfin, bon, on s'amuse beaucoup à faire ça. Voilà, c'était le désir de faire, pas le contraire de la science-fiction, mais un peu quand même, oui, c'est sûr.
Je voulais évoquer la collaboration avec Bilal, parce qu'on va rejoindre un autre thème. Je crois que vous avez mené quasiment des enquêtes pour les scénarios de certains titres.
Avec Bilal, c'était encore une autre affaire. Et vous voyez là peut-être aussi la spécificité du scénariste par rapport au romancier. C'est-à-dire quand on est romancier, et je ne veux pas du tout insulter, bien au contraire, mes camarades romanciers, on écrit toujours un peu le même roman. Moi, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, parce que je me donne un tintouin du diable pour essayer de me renouveler dans chaque roman, mais au fin fond, c'est toujours un peu le même truc, même si l'intrigue est différente, les personnages sont différents, etc. Être scénariste, c'est au contraire avoir un ego, pour autant que j'en ai un, hein, ou une psyché, pour autant que j'en ai une, qui est extrêmement atomisée. Alors je parlais à l'instant de cette espèce d'atomisation entre Valérian et ce que j'ai pu faire avec une femme comme Annie Goetzinger. Quand j'ai vu les dessins d'Enki Bilal, qui était très jeune à l'époque, j'ai été stupéfait de voir qu'on pouvait dessiner, qu'on pouvait faire de la BD de cette façon-là. J'ai vu les dessins, il avait gagné un concours à la noix organisé par un journal pilote, et j'ai vu les dessins comme ça posés sur une table. J'ai toujours été très passionné de dessin, donc en voyant ça, alors lui, il vient pas du tout ni de la ligne claire, ni de Art déco, ni de tout ça. Il vient de l'art balkanique, il vient de l'imagerie communiste, il vient de Gustave Doré, il vient de beaucoup de choses, et Bilal étant ce qu'il est, il vient aussi de choses très mystérieuses. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas de quoi ça vient. Et donc, c'était une possibilité de dessin et une possibilité de représentation du monde complètement différente de ce que je pouvais faire, par exemple, avec Jean-Claude Mézières, avec Annie Goetzinger, ou même avec Jacques Tardy, merveilleux dessinateur, avec qui j'avais travaillé auparavant. Donc, pareil, on s'est rencontrés par hasard. Je crois qu'on peut le dire, on ne sait plus. On a commencé un album, mais 3 jours après s'être rencontrés, comme ça, voilà, on avait envie, c'est parti. Et là, l'idée était d'explorer une espèce de fantastique contemporain. C'est-à-dire, c'est quand même des albums fondamentalement très politiques, mais où la politique n'est pas abordée de façon uniquement journalistique, même si j'ai fait beaucoup d'enquêtes pour Enki Bilal, mais est abordé de façon métaphorique. C'est-à-dire que les symboles de la politique comptent autant, en quelque sorte, que la réalité. Et c'est parce qu'il n'y a que Bilal, je sais pas quoi, qui peut faire de la neige salie par le sang d'un règlement de compte politique. Bon, bah, c'est de la BD hyper marxisante, par certains côtés, mais c'est aussi de la BD fantastique, par d'autres côtés, et ça donne Partie de chasse, pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être cet album-là. Donc j'ai pu explorer avec lui toute une dimension de moi-même qui, à la limite d'ailleurs, ne m'intéresse pas tellement en tant que romancier, n'intéresse pas du tout Jean-Claude Mézières, et intéresse encore moins Annie Goetzinger. Mais que je pouvais faire ça qu'avec Enki Bilal. Ce qui fait que, pour finir là-dessus, être romancier, c'est toujours un peu les mêmes romans que j'ai écrit. Être scénariste, j'ai une personnalité qui est un peu atomisée entre mes divers dessinateurs. C'est accepter que quelqu'un qui a eu un dessin très fort, c'est-à-dire une représentation du monde, existe dans ma propre tête. Et de la même façon, il faut que lui, il accepte que j'existe dans sa propre tête. Et ses collaborations scénaristes-dessinateurs qui sont, je trouve, que j'aime beaucoup, qui sont des belles aventures, qui dans certains cas peuvent durer un an, un album, puis on s'aperçoit que, comme dans les aventures avec une femme, bon, c'est bien, mais vaut mieux pas s'attarder, vaut mieux terminer en beauté. Et puis, d'autres cas où, bon, alors moi, du coup, j'ai été un peu marié plusieurs fois, on peut le dire. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est comme les mariages. Là aussi, on ne peut pas savoir si ça durera toujours.
Je voulais évoquer l'enseignement, cette envie de transmettre. Vous avez été prof à la Sorbonne, à Bordeaux, à Salt Lake City, on l'a dit. Il y a toujours eu une volonté de transmettre le savoir.
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a un côté d'un petit gars français très classique des années 60-70 qui fait des études supérieures par raccro. Je n'étais pas du tout destiné à ça. Donc, moi, l'université, l'alma mater, enfin quand même, j'ai été reconnaissant de me sortir de là où elle m'avait sorti. Mais j'ai toujours rêvé de donner des enseignements très, très pratico-pratiques. Les cours d'amphithéâtre, tout ça, moi, ça m'a toujours prodigieusement emmerdé quand j'étais étudiant. Et ça m'emmerde tout autant en tant que prof. Ce que j'aime, c'est travailler la main dans la main avec des types qui ont envie de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé, non pas à l'université classique ou à Sciences Po, où j'aurais très bien pu enseigner, mais dans une école de journalisme. Il y a un côté, dans le journalisme, d'aller au charbon. Il y a un côté que j'aime beaucoup, qui est très matériel. Enfin, c'est du papier, c'est de l'encre, c'est des ordinateurs, c'est des caméras, c'est des magnétophones, c'est des machines, quoi. Faut se battre avec ça. Et j'ai toujours beaucoup aimé travailler en petits groupes avec des garçons ou des filles qui avaient envie d'écrire. Alors, certains, d'ailleurs, avaient choisi le journalisme parce qu'ils avaient envie de devenir des écrivains, ça se voit assez souvent, ou des scénaristes, d'autres parce qu'ils avaient envie de devenir des vrais journalistes. Et j'ai vraiment adoré travailler avec ces garçons et ces filles, dont beaucoup, mais je pense qu'on va en parler, sont d'ailleurs devenus soit des très grands journalistes, soit des très bons écrivains. Et puis il y a un deuxième facteur qui est que mener une vie d'écrivain, c'est très emmerdant d'être écrivain, hein. On est tout seul, on voit personne, on mouronne, ça prend des semaines et des semaines, on recommence, on est pénible, franchement, pour ses proches, pour ses copains, c'est un sale métier. Scénariste, déjà, beaucoup moins, parce qu'on bosse avec un autre gars, donc on partage des tas de trucs, et puis voilà, on peut aller, je sais pas quoi, jouer au tennis ensemble, ce qu'on fait, Bilal, Mézières et moi, ça nous fait beaucoup de bien. Avec d'autres, aller faire du vélo, avec d'autres, des âneries, hein. Mais on n'est pas tout seul. Donc déjà, je préfère scénariste à écrivain, enfin, je veux dire, pour le plaisir de vie. Mais, fondamentalement, je ne me suis jamais vu, pour mon équilibre psychique, être tout seul à écrire dans mon coin. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé enseigner, parce que, voilà, on est obligé de sortir de soi-même, on est obligé d'écouter d'autres gens, de vivre la vraie vie en quelque sorte, et donc j'ai alterné ça, et évidemment ça donne des résultats merveilleux et parfois très inattendus, puisque quand je suis arrivé hier soir, ben j'ai découvert que c'était Stéphane Beauverger qui allait avoir le Grand Prix des Utopiales, et Stéphane a été mon élève dans une autre vie, dans un autre monde, et il a eu la gentillesse de dire que je l'avais encouragé. Ben oui, c'est vrai, voilà. Je l'ai encouragé, j'en ai encouragé d'autres. Je dois dire aussi, comme prof, hein, il m'arrivait d'être viril, j'en ai découragé tout autant. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir devenir écrivain. Mais voilà, ça c'est des choses qui font très plaisir.
On a eu encore une grosse dizaine de minutes devant nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment, vous avez Pierre-Christin juste à côté. Allez-y, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on continue à papoter tous les deux. Hein. Il n'y a pas de souci. Personne? Ah, monsieur devant.
Merci. Bonjour. Je vous entendais parler de vos débuts, où il y avait beaucoup d'amusement dans le travail. Ce que je voulais vous demander, c'est, au bout de tant d'années d'expérience variée, mais quand même d'expérience dans le même travail, à peu près, est-ce que vous avez toujours cette passion du début, cet amusement? Et est-ce qu'on arrive à oublier un peu tout ce qui va autour, les contraintes administratives, les autres, enfin, ce qui n'est pas ce qu'on veut faire initialement?
Vous savez, de toute façon, la littérature et le travail créatif, c'est quelque chose où on ne progresse pas, où on n'accumule pas vraiment. Chaque nouvel album, chaque nouveau livre, il y a peut-être des gars qui ont la tête plus solide que moi, mais pour moi, à chaque fois, là, je suis au bord de l'estrade, au bord de la table, c'est le gouffre. Hein. Alors, l'expérience, elle fonctionne dans des problèmes de méthode. Et par exemple, c'est vrai que pour un certain nombre de travaux que je fais, j'applique des méthodes de type journalistique. Par exemple, pour Bilal, j'ai énormément, en mon temps, voyagé dans les pays de l'Est, à l'époque où c'était pas facile, hein, où c'était le régime communiste, vous étiez fliqué partout, mais vraiment, vous aviez le KGB sur le dos. Hein. Donc j'ai vu beaucoup de choses. La dernière des choses que j'ai vues, c'est un des voyages les pires que j'ai fait, c'est à Tchernobyl, où j'ai été pour écrire mon dernier travail avec Bilal, qui s'appelle Le sarcophage, où j'ai été sur place, avant la fermeture, juste avant la fermeture. Bon, là, c'est vraiment des expériences vécues qui sont très lourdes, que je vais retravailler et redistiller dans, par exemple, une bande dessinée ou dans un livre illustré. Mais il y a aussi dans ce rapport à l'expérience, au passé, à ce qu'on a vécu, des choses très curieuses et très troublantes, alors qui, elles, sont liées au fait d'écrire de la science-fiction ou, de, je préférerais, de la speculative fiction. Qui est que, par exemple, dans Valérian, en 1967, notre première histoire, on a dit qu'il y aurait un cataclysme nucléaire en 1984. Par explosion d'un dépôt de bombes atomiques caché dans les glaces de l'Arctique, etc., etc. Ok, mais c'était l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on ne pensait pas du tout que 20 ans après, on serait encore en train de faire Valérian. C'était une blague, voilà, enfin une blague sinistre, hein, mais et qui donnait que New York était pris sous les eaux. Et puis passe 70, 75. Et puis en 1980, parce que quand même, un scénariste s'est aussi payé pour se faire de la bile avant le dessinateur. Le dessinateur, lui, il dessine, il est dans son histoire. J'ai commencé à dire, mais de quoi on va avoir l'air en 1984, puisqu'on a dit qu'il y aurait un cataclysme, que la civilisation actuelle serait rayée de la carte, et que, bien évidemment, ça n'aura pas lieu, et que Valérian, la BD Valérian, va continuer. Donc, j'ai été, je crois que c'est pas arrivé très 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 souvent, obligé d'écrire toute une série d'albums de Valérian pour les amateurs, Métro Châtelet, Les Spectres d'Inverloch, etc., etc., où les deux héros, Valérian et Laureline, défont par un paradoxe spatio-temporel ce qui a été fait auparavant et donc font en sorte qu'il n'y ait pas de cataclysme en 1984 puisqu'ils sont encore là et nous aussi. Bon. Ça, je l'écris en 82-83. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 84? Eh bien, il y a une explosion nucléaire et c'est celle de Tchernobyl. Alors, c'est pas celle que j'avais prévue, mais enfin, d'un point de vue scientifique, c'est quand même la première grande monstruosité cataclysmique de l'ère contemporaine. Et alors, du coup, ça, je l'avais raconté d'une certaine façon dans Valérian, mais je me suis senti obligé de le raconter d'une autre manière avec Bilal, parce qu'il n'y avait qu'avec lui que je pouvais parler du problème du sarcophage. Il n'y a que lui qui peut dessiner ça à sa façon, pas Mézières. Et alors donc, l'expérience, à la fois l'expérience vécue, l'expérience littéraire, vont se retrouver avec une espèce de passerelle dans une autre œuvre que je suis en quelque sorte obligé de faire, presque à titre personnel, et d'y aller moi-même, parce que j'ai comme une dette à payer par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est des drôles de micmac hein, dans certains cas.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question? On a encore 5 minutes. C'est le moment. Oui, non. Alors, bah, simplement, on va terminer sur les projets. Le dernier tome de Valérian arrive. Le roman vient de tout juste de sortir aux éditions Mango. Et puis, il y a les correspondances. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un petit peu?
Ben, toujours la même idée de travailler dans des registres différents les uns des autres. Donc j'ai fait, à ma surprise, beaucoup plus de bandes dessinées que je ne l'aurais cru, mais ça c'est lié à ma passion du dessin et à mes amitiés avec des dessinateurs. Et puis ça donne le fait que, en quelque sorte par ramification, on connaît de plus en plus d'artistes qui eux-mêmes viennent vous demander de travailler pour eux. Alors, par exemple, récemment, une merveilleuse collaboration pour moi, qui est très, très éloignée de la science-fiction du fantastique, c'est avec ce magnifique dessinateur qui est André Juillard, avec qui j'ai fait Le long voyage de Léna, un nouveau livre sur le terrorisme, un autre sujet qui me tracasse beaucoup, avec une héroïne qui s'appelle Léna. Bon, ça, c'est quelque chose qui fait partie de mes projets en cours. Et puis, l'idée de ne pas faire non plus alors que des romans, j'en ai fait, dont un que j'ai fait par exemple sur le monde universitaire, qui est dans un état catastrophique en France, quasiment aussi cataclysmique que Tchernobyl, enfin, en tout cas pour les facs de lettres et sciences humaines. Donc c'est un sujet, mais ce n'est pas un sujet de science-fiction, ça, c'est un sujet hyper contemporain. Et donc j'ai aussi fait des livres illustrés, parce que je voyage beaucoup, mais ce n'est pas des vacances mes voyages, c'est des repérages. Et donc j'avais beaucoup de sujets que je ne voyais pas du tout, ni en romanesque, ni en bande dessinée, mais pour lesquels j'avais envie de faire appel à des dessinateurs d'un style encore différent de ceux avec qui j'ai travaillé. Alors par exemple, j'ai travaillé avec Jacques Ferrandez, qui à mon avis est celui qui sait mieux parler du monde arabe, du monde musulman. J'ai travaillé avec Jean-Claude Denis, qui est peut-être le plus onirique de nos dessinateurs. J'ai travaillé avec Miguel Ancho Prado, merveilleux dessinateur espagnol. Alors en essayant d'autres formules, c'est-à-dire là c'est du texte et des dessins. Ça peut être des photos retouchées dans certains cas. Enfin, vous voyez, de ne pas se laisser enfermer, par exemple, dans la mécanique de la bande dessinée. Une BD, fondamentalement, c'est toujours fait de la même manière. Il y a un scénariste qui discute avec un dessinateur, il écrit un scénario, et puis il y a le dessin. Dans un livre illustré, non. On fait le voyage ensemble, ou pas, on discute, il y a des textes qui sont écrits après que les dessins soient faits, ce qui n'est jamais le cas en bande dessinée. Enfin voilà, c'est d'expérimenter des choses comme ça, et qui s'appellent les correspondances. Mais ce n'est pas tant des correspondances au sens postal de la chose que ce grand mystère des correspondances entre ce qui est visuel et ce qui est littéraire. Parce que même quand on travaille avec un dessinateur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30, 40 ans, on s'aperçoit quand même qu'on ne fonctionne pas pareil. Et que un artiste graphique ne voit pas les mêmes choses, conçoit pas les mêmes choses que quelqu'un qui se sert que des mots. Alors voilà, j'essaye d'utiliser toutes les armes qui sont à ma disposition pour faire des petits livres, distrayants, si possible.
Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il y a des heures qui passent très très vite comme celle-là. J'ai encore une petite annonce à faire, puisque tout de suite, à la librairie, il y a des dédicaces. Loïc Leband, Stéphane Beauverger, on en parlait, David Calvo, Alden Kahn, Yang McDonald, Jean-Philippe Jaworski, Cyr Cédric, Jeanne Adeba, Maya Mazorette, mais aussi des dessinateurs BD, Jean-Baptiste Monge, Dezi Bajram ou Valérie Mangin. Ça fait du monde, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, tout de suite, une conférence ici, les mondes meilleurs seront-ils extraterrestres ? Tout un programme. Et puis juste à côté, il y a Retour sur la loi Hadopi, une conférence au bar de Madame Spock. Merci à tous.